DW, l'arbre à palabres.
Bonjour, le riz au menu de cette émission aujourd'hui. Les participants à la 7e conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique fin août 2019 se sont levés avec de nombreuses annonces ou promesses d'aide. La plus éclatante est sans doute la contribution à la riziculture. Le Japon annonce vouloir pousser la production de riz sur le continent africain à 50 millions de tonnes par an d'ici la prochaine décennie. Si à l'échelle mondiale, l'objectif est à une augmentation de 20% de la production de riz pour assurer une sécurité alimentaire. En Afrique, la production est en souffrance au point que l'Afrique subsaharienne, par exemple, est devenue un grand importateur de cette céréale. Une bonne nouvelle donc pour les consommateurs, mais de nombreuses questions restent à éclaircir, notamment les moyens à utiliser pour doubler la production de riz, comme le Japon l'entend, sachant aussi que dans certains pays, des milliers de tonnes de riz pourrissent en stock alors que l'on en importe en quantité. C'est donc pour mieux comprendre ce genre de phénomène et mieux cerner l'annonce du Japon que nous recevons Ibrahim Koulibaly, président du réseau des organisations paysannes et des producteurs agricoles de l'Afrique de l'Ouest, ROPA. Monsieur Koulibaly, bonjour.
Bonjour.
Bernard Ndjonga, président de l'Association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs, ACDIC, et ingénieur agronome. Merci d'être avec nous, monsieur Ndjonga, bonjour.
Bonjour.
Et Jacques Berthelot, enseignant-chercheur en économie agricole à la retraite, spécialiste de l'économie rurale. Vous avez travaillé dans beaucoup de pays africains. Vous connaissez très bien le thème de l'alimentation sur le continent africain. Monsieur Berthelot, merci d'être avec nous aussi. Bonjour.
Bonjour, mais je connais quand même beaucoup moins bien que les deux autres.
Les deux autres.
Oui.
Mais on verra tout à l'heure. Au micro, Fréjus Quenom, merci à tous nos invités et donc à tous nos auditeurs, bien sûr, de nous rejoindre pour cette émission.
DW.
L'Afrique est un carrefour de développement, c'est ce qu'a dit Shinzo Abe, le premier ministre japonais, hôte donc de la 7e TICAD. Encore un géant d'Asie qui nourrit des ambitions grandioses sur le continent. C'est vrai que le Japon est avec l'Afrique il y a quand même maintenant très longtemps. Le continent africain où la Chine pousse aussi ses pions. Je vous laisse d'abord entendre un extrait des propos de Shinzo Abe lors de cette conférence de Tokyo.
En apportant notre assistance aux nations africaines, nous devons nous planifier de sorte à ce qu'il n'y ait pas une explosion de la dette. Nous devons penser à une forme d'assistance qui puisse aider les nations concernées à se développer et à prospérer. Nous devons encourager la transparence et l'ouverture, une économie viable et durable.
Un énoncé d'une manière générale des intentions du Japon pour l'Afrique. Et le thème qui nous intéresse, et je le disais dans l'introduction, une des annonces les plus spectaculaires, c'est donc la production de riz sur le continent africain que le Japon veut aider à faire augmenter. Alors, Ibrahim Koulibaly, président du ROPA, est-ce que vous pouvez déjà nous donner une idée de la production du riz sur le continent, la production rizicole?
Merci beaucoup, M. Kenam. Il y a un énorme potentiel, d'abord, d'augmentation de la production de riz. Donc, vous savez, le problème n'est pas un problème, disons, d'inexistant de potentiel. Le potentiel, il est énorme.
Potentiel, vous entendez quoi par potentiel? La terre, par exemple?
Il y a suffisamment de terre, il y a de l'eau. Et donc, partout il y a de la terre, en principe, on peut faire du riz. Le problème, c'est l'incohérence des politiques qui sont en place dans la plupart de nos pays par rapport à cette céréale. Parce qu'il y a énormément de collusions entre l'importation de riz et les partis politiques qui sont au pouvoir en Afrique. Beaucoup de partis politiques qui sont financés directement par l'importation du riz. D'ailleurs, je pense que les journalistes doivent investiguer sur cette question parce que chaque fois qu'il y a changement de régime, les gros importateurs de riz changent. Donc, c'est quelque chose qui est très connu en Afrique. Donc, je pense qu'il faut que les gens comprennent que l'Afrique peut s'autosuffire très rapidement. Parce que les paysans sont là, ils sont très travailleurs, ils attendent les aménagements qui ne viennent pas souvent. Et en plus de cela, les marchés sont envahis par des riz importés qui sont de très mauvaise qualité. et qui sont moins chers que la production locale. Et donc, ils viennent détruire la production. D'ailleurs, il y a un problème entre le Nigeria et le Bénin, qui fait de la réexportation du riz au Nigeria, qui veut protéger sa production locale. Donc, c'est vraiment un problème d'incohérence des politiques et du manque de volonté politique de protéger la production locale qui pose le problème dans lequel nous sommes.
Mais donc, vous croyez, M. Koulibaly, que l'Afrique est capable de nourrir, de fournir du riz à sa population, en tout cas de couvrir le besoin qui existe ?
Absolument. Si les politiques cohérentes sont mises en place, si les investissements nécessaires sont faits en termes d'aménagement, et les paysans sont là, ils attendent les terres aménagées, parce que ça coûte cher les aménagements. Donc si le Japon veut s'investir dans ce créneau, je pense qu'il est très facile, en 10 ans c'est jouable. En tout cas en Afrique de l'Ouest, l'Afrique de l'Ouest ne couvre que 60% de ses besoins, et si vous ajoutez à cela l'augmentation de la croix de la population et l'urbanisation, parce que c'est dans les villes qu'on consomme le riz, vous savez, les besoins ne sont qu'augmentés. Et donc, il faut augmenter la production en Afrique de l'Ouest, comme je connais mieux la situation, de 8% chaque année pour qu'on puisse tenir l'objectif de l'offensive qui a été élaborée par la CEDEAO.
Merci beaucoup. On parlera aussi un peu de cette offensive RIE dans quelques instants. Mais d'abord, Bernard Dionga, président de l'Association camerounaise pour la défense des intérêts collectifs. Que pensez-vous de cette annonce faite par le Japon qui veut aider l'Afrique à produire jusqu'à 50 millions de tonnes de riz par an dans la prochaine décennie?
Écoutez, quand j'entends cette annonce, je me lève, mais je n'applaudis pas. Puisque dit qu'on nous aide, ça nous honore absolument pas. Surtout que, comme venait de le dire Ibrahim, nous avons le potentiel. C'est les politiques qui ne nous permettent pas de valoriser notre potentiel pour barrer ce mot de l'aide qui ne devrait plus traverser l'Afrique. Bon, cependant, moi je trouve que cette annonce reste une annonce, elle est extrêmement vague, parce que quand on parle de continent africain, c'est plusieurs pays, chaque pays ayant sa spécificité. Quand on parle de l'aide, il reste à savoir sous quelle forme cette aide doit être octroyée, financière, elle sera matérielle, elle sera technique. Donc il y a un ensemble de questionnements qui restent. Et quand on parle de doubler la production, là encore c'était notre problème. Quand je prends le cas du Cameroun, le Cameroun, pour ses besoins de consommation interne, a besoin de 550 000 tonnes de riz par an. Alors on produit à peine 100 000 tonnes de riz. Alors si en 10 ans on double la production, ça sera 200 000 tonnes, on n'atteindra pas les 550 000 tonnes dont on a besoin. Et dit même que pendant 10 ans, la demande aura augmenté, effectivement, parce que comme disait Koulibaly, la population, elle aussi, aura augmenté, et surtout la population citadine qui consomme suffisamment du riz. Donc pour moi, ça reste un fait d'annonce. Quoi qu'on dise, ça reste un fait d'annonce, car on ne sait pas à quel niveau ça doit être géré, si c'est au niveau des politiques. Il y a encore un autre problème de gestion, parce que ce n'est pas la première aide qu'on connaît en Afrique. On a eu des aides sous toutes les formes. On a vu comment ces aides ont été gérées. On a vu quel type de développement ces aides ont provoqué. On a vu qui étaient les bénéficiaires de ces aides. Donc, au stade actuel, une déclaration comme celle-là, je me lève, mais je ne le dis absolument pas.
Mais merci, Ibrahim Koulibaly. Est-ce que vous partagez les appréhensions de Bernard Dionga en ce qui concerne l'annonce du Japon pour aider la production de riz en Afrique?
Absolument. Je pense que si réellement les dirigeants politiques africains veulent réellement développer la production de riz, c'est pas au Japon qu'il faut aller annoncer ça. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils prennent en charge la question et qu'ils y investissent, qu'ils fassent des politiques cohérentes. C'est d'abord par là qu'il faut commencer. Or, tout ça, ce n'est pas en place. Combien de pourcentage des budgets les États mettent d'abord dans l'agriculture, encore moins, qu'est-ce que dans ce pourcentage on met dans la filière riz dans nos pays. Donc c'est les questions de fond, ce n'est pas le Japon qui viendra développer l'Afrique, ce n'est pas le Japon qui viendra développer la filière riz en Afrique. Et puis comme l'a dit Dionga, c'est totalement vague, rien n'est clair dans cette affaire. Cette aide devait être complètement détournée, elle n'arrivait jamais aux producteurs de riz. Donc c'est pas, nous on ne peut pas nous réjouir parce qu'il y a une annonce. Donc si réellement le Japon a une vraie volonté, ben, qu'il nous connaît des détails, surtout que ce soit transparent, que toutes les couches de la société soient impliquées, les organisations des producteurs, la société civile, que nous soyons tous impliqués, que ce ne soit pas simplement les politiques. Sinon il y a un problème.
On s'imagine, M. Koulibaly, que vous n'étiez pas au Japon, par exemple, à l'occasion des discussions au sujet de la production de riz. Vous n'y étiez pas, n'est-ce pas?
Non, je n'ai pas été invité, donc je n'y étais pas.
Voilà. Alors, Jacques Berthelot, comment est-ce que vous réagissez aux appréhensions, donc à la façon de voir de Ibrahim Koulibaly et Bernard Dionga, leur approche de cette annonce faite par le Japon?
Bon, le premier constat, c'est que le Japon, en fait, il a été obligé depuis l'OMC, depuis 1995, donc il a été obligé d'importer à peu près 700 000 tonnes de riz des États-Unis par an. Et c'est comme il ne veut pas consommer ce riz, en fait, il a déjà, pour l'essentiel, il a été redonné au titre de l'aide alimentaire japonaise, donc notamment en Afrique. Et le problème, c'est que lorsqu'il est donné en Afrique, ce riz, il est souvent de plusieurs années, donc il n'est pas de bonne qualité. Et donc, les Japonais ne veulent pas consommer ce riz et ils l'ont envoyé en Afrique avec retard. Donc, bon, franchement, bon, ce n'est pas déjà de bon augure sur les intentions profondes du Japon. Enfin, bon. Mais effectivement, ce qu'on dit, donc Bernard et Ibrahima, c'est bien vrai. Bon, l'Afrique a tout à fait le potentiel de pouvoir augmenter fortement la consommation de riz. Mais effectivement, il lui faut beaucoup d'investissements. Le problème est là, quoi. Les États n'ont pas consacré les moyens aussi bien au niveau de leur budget pour donc financer les infrastructures nécessaires, qui sont assez lourdes. Le riz du Cameroun, il est surtout cultivé au nord du Cameroun. Et il y a un problème d'acheminement vers les villes du sud du Cameroun. Bon. Et donc, en fait, l'essentiel de la production de paddy du Cameroun, il est exporté au Nigeria. Et la même chose au Nigeria, il y a d'énormes problèmes au Nigeria, c'est que notamment les problèmes de transport. Ça revient plus cher pour le Nigeria de faire venir du nord le riz que de le faire venir de Thaïlande ou de Chine. Et la même chose pour le maïs. Le maïs, ça coûte moins cher de le faire venir des États-Unis que de le faire venir du nord du Nigeria vers le sud. Bon, il y a d'énormes problèmes. Donc,
vous avez commencé par parler donc de ces situations où le Japon importe du riz des États-Unis et le riz reste en stock et puis on l'envoie en Afrique en qualité moindre. Est-ce que lorsqu'on entend maintenant de la part du Japon qu'il veut aider directement la production sur le terrain en Afrique, est-ce qu'il n'y a pas une bonne intention quelque part?
Au lieu de faire venir
du riz avarié, on aide à produire du riz de bonne qualité.
Oui, non, mais les hommes politiques sont pleins de bonnes intentions, ça c'est sûr. Il y a d'énormes problèmes, mais la solution essentielle vient de la volonté politique des États, quoi. Bon,
la volonté politique, dites-vous. Ibrahim Koulibaly, on a beaucoup insisté sur donc, la volonté politique. Vous aussi, vous avez commencé par dénoncer les insuffisances au niveau des politiques publiques. Mais qu'est-ce qu'il faut comme investissement, par exemple, comme infrastructure pour booster la production de riz sur le continent?
Le riz, pour bien le faire, il faut la maîtrise de l'eau. Il faut que l'eau puisse venir, qu'on puisse aussi drainer quand c'est nécessaire. Donc, ce type d'aménagement, pour vous donner un exemple, un hectare, pour aménager un hectare comme ça à l'Afrique du Niger au Mali, c'est minimum 5 millions de francs CFA. Donc, si vous voulez faire 100 000 hectares, si vous voulez faire 500 000 hectares, vous imaginez ce qu'il faut comme investissement. Donc, c'est ça qui... Les paysans en ont besoin.
À part l'aménagement, est-ce qu'il faut peut-être des instruments plus modernes, plus industriels pour peut-être enlever, pour décortiquer un peu le riz?
Oui, bon, je pense que la chaîne de valeur est un des problèmes, mais ce n'est pas le plus déterminant. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le riz qui est traité avec des petites machines dans les villages et arrive dans les villes et ce riz, il est de très bonne qualité, il est consommé par les villes, il n'y a pas de problème en principe. Mais on peut investir davantage. Il y a des organisations qui se sont organisées, des paysans, des femmes qui font des métivages, qui font des riz à caractère un peu spécial. Il y a des gens qui, dans la vallée du fleuve Sénégal, par exemple, qui font du riz basmati aujourd'hui. Donc ça veut dire que les paysans sont en train de faire des efforts. Donc ce n'est pas le problème de la qualité, en principe, qui est le premier problème. Il n'y a pas d'équipement pour faire sécher le riz en Afrique. Donc il y a énormément de questions comme ça. Moi, il y a deux jours, j'étais à l'Office du Niger. Les gens sont en train de récolter du riz dans l'eau. Et donc, ça crée des défis énormes pour que ce riz soit de bonne qualité. Il faut beaucoup d'investissements dans les infrastructures et relever le niveau de taxation pour empêcher que le riz asiatique ne vienne détruire cet effort que les paysans font en Afrique.
Justement, là, vous évoquez la question du prix. J'allais demander, Bernard Jonga, vous qui êtes un acteur de la société civile, vous vous intéressez aussi au prix des produits. Comment est-ce qu'il se fait que le riz vient de l'extérieur? C'est parce que la production locale coûte plus cher et le comportement d'un consommateur, c'est bien de s'orienter vers ce qui coûte le moins cher.
Non, pas seulement. Nous tous connaissons que le prix est en fonction de l'offre et de la demande. L'offre en riz dans nos pays est extrêmement faible. Donc, rien qu'à ce stade-là, c'est normal que ça coûte cher. Et il faut aussi reconnaître que ce riz est de très bonne qualité. Là aussi, il y a des raisons que ça puisse coûter cher. Donc, ne négligeons pas ces aspects. Cependant, il est plus facile de transporter un sac de 50 kilos de riz du Japon à Yaoundé que de le transporter de Yagoua à Yaoundé. Pour regarder, entre Yagoua et Yaoundé, il n'y a pas d'infrastructure. Nous savons tous que l'Europe s'est développée à travers le train, le transport par train, à travers le transport par bateau. Entre ici, chez nous, Yagoua et Yaoundé, il n'y a presque pas de train. Il faut le remarquer. Alors que le riz qui part du Japon, par exemple, il part par bateau, il arrive au port de Douala et c'est vite fait. Et les paysans qui sont de ce côté sont des paysans qui sont, pour certains aspects, subventionnés. Il faut aussi le reconnaître. Les paysans en Afrique sont abandonnés à eux en termes de subventions. Et lorsque vous remarquez que l'État, par moment, je ne sais pas si c'est par ignorance ou par égoïsme, surtaxe les coûts d'aménagement aux petits paysans, c'est normal que leur riz puisse coûter plus cher. Donc le riz, la cherté du riz africain, ou le riz camerounais par exemple, est due au fait que les conditions de production ne sont pas bonnes. Et si vous permettez, prenons le cas du riz au Cameroun. Écoutez, le sac d'engrais est vendu à Yagoua à 20 000 francs. Alors qu'il est démontré que pour qu'un paysan puisse entrer dans ses coûts, il faut que ce sac d'engrais soit vendu à 10 000 francs. Voilà une situation qui est tellement dommageable.
Qui encourage la hausse du prix.
Mais tout à fait. Et aujourd'hui, on a des commerçants qui ne veulent plus commercialiser le riz local parce qu'ils ne réalisent pas de bons bénéfices sur le riz local. Et du coup, ce riz, qui est d'abord bon, n'est pas connu par la plupart des Camerounais, puisque à Yaoundé, à Douala, les gens demandent ce riz, il n'est pas connu. Et lorsqu'il y arrive, il coûte excessivement cher. Le kilogramme de riz à Yagoua, j'y étais il y a 2 semaines, coûte 300 francs CFA. Le même riz rendu à Yaoundé, le kilogramme coûte 700 francs CFA. Or, à Yaoundé, le kilogramme du riz thaïlandais coûte 400 francs CFA. Du coup, ce riz, sur le bassin de consommation, si vous permettez le terme, est moins compétitif que le riz qui vient de l'extérieur.
C'est donc ce qui explique que récemment, on découvre au Cameroun du riz en pourrissement, du riz cultivé au plan local qui est en pourrissement alors que le pays importe quantité de riz. C'est bien ça?
Ah oui, mais tout à fait. Vous imaginez, à Yagoua, il y a le stock de riz local qui pourrit dans les magasins alors que le Cameroun importe. En 2017, on a importé pour 800 000 tonnes de riz pour près de 150 milliards de francs CFA. Mais c'est scandaleux, c'est ahurissant. Et on se pose la question, et c'est là où moi j'ai beaucoup apprécié quand Ibrahim a mis le doigt sur la volonté politique. Et c'est là où la solution se trouve. Ce n'est pas à travers l'aide.
Jacques Berthelot, vous qui êtes économiste, vous qui connaissez bien le circuit, comment est-ce qu'on peut expliquer que l'acteur étatique ne veuille pas investir dans ce qui est produit localement et qu'il y a une situation qui favorise plutôt le riz qui est importé alors que les producteurs locaux ont besoin de produire et écouler leurs produits?
Les responsables politiques de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, comme le Cameroun, n'écoutent pas leurs paysans, leur organisation paysanne. On leur a appris à tous ces responsables politiques, à du moins à leurs hauts fonctionnaires, dans tous les séminaires qui sont organisés par la Commission européenne, par la FAO, la Banque mondiale, etc., qu'il n'y avait pas de développement sans libre-échange. Et l'absurdité actuelle maintenant, c'est qu'avec la zone continentale de libre-échange, l'objectif, c'est de supprimer les droits de douane, non seulement de 90% entre les États membres, mais ça va entraîner aussi une baisse des droits de douane sur les importations venant du reste du monde. Et ça, les responsables politiques et ou leurs hauts fonctionnaires n'y comprennent pas, disons, applaudissent à ce genre de choses. C'est tout à fait dramatique. Et donc, il est évident que l'Union européenne elle-même, sur ses produits alimentaires de base, qui, quand elle les exporte, sont très fortement subventionnés, mais elle-même, pour ses produits alimentaires de base, elle a des droits de douane très, très élevés, bien supérieurs. Quand je parle de produits alimentaires de base, c'est par exemple le blé de qualité ordinaire, c'est le riz, hein, le riz qui est subventionné, qui est taxé à je crois 170 euros la tonne, quelque chose comme ça. Bon, les viandes, la poudre de lait, etc. Bon, et donc il y a eu le rapport de la Task Force Rural Africa qui dit ceci, qu'il faut que l'Afrique suive le modèle de développement de l'agriculture de l'Union européenne. C'est complètement absurde. Parce que dans le même temps, donc on impose des accords de partenariat économique où on va baisser les droits de douane, certes pas sur le riz, parce que l'Union européenne n'exporte pas de riz, hein, elle-même importatrice, mais donc, et voilà, mais sur le riz, donc le droit de douane actuel de 10%, bon, je crois qu'il n'est que de 5% au Cameroun, il avait été complètement, d'ailleurs, supprimé en 2009, je crois, après la crise de 2008, mais il a été rétabli ensuite. Bon, alors, vraiment, le problème, c'est que les responsables doivent promouvoir, donc, l'autosuffisance alimentaire en augmentant les droits de douane, mais en même temps, pour ne pas pénaliser effectivement la population qui est très pauvre, il faut qu'ils mettent en place des politiques aussi de
subventions
de la consommation alimentaire, hein, à la limite, comme le fait l'Inde, voire comme le fait les États-Unis. Hein, mais, bon, mais on ne pourra pas développer la production de riz et d'une façon plus générale de tous les produits alimentaires de base en Afrique sans que les agriculteurs aient une vision à moyen terme de stabilité et de prix rémunérateur.
Alors, Ibrahim Koulibaly, président d'Europa, on met en cause l'acteur politique, mais vous avez indiqué au début de cette émission qu'il y avait une initiative au niveau de la CEDEAO pour encourager la production de riz quand même. C'est une bonne initiative.
Oui, absolument. Et ça a été fait avec les organisations des producteurs et la société civile. Je pense qu'il faut saluer ici les cadres qui sont à la CEDEAO, qui ont quand même dans leur stratégie une démarche d'implication des acteurs de terrain dans toutes les politiques qui les élaborent. Donc l'offensive du riz a été faite avec les producteurs de riz, avec la société civile.
Et avec quel succès? Depuis combien de temps déjà?
Je pense que c'était en 2015. C'est une vision politique qui est très claire, qui veut véritablement organiser la production, organiser les chaînes de valeur, organiser la mise en œuvre. Mais encore une fois, jusqu'à présent, le problème majeur avec la CEDEAO, c'est que la CEDEAO n'a pas de ressources propres pour financer ses politiques. Donc la plupart du temps, c'est des distincts meetings qu'elle organise pour essayer de mobiliser des ressources, et ces ressources ne viennent pas. Donc c'est la Banque mondiale qui a mis un peu d'argent, et puis aussi l'USAID, et cet argent a servi au CORAF, qui est le consortium des centres de recherche, à faire des semences. Donc c'est tout ce qui a été fait, je sais pas, à ma connaissance, sur l'offensive. Mais je pense que si réellement le Japon inscrit en Afrique de l'Ouest, tout au même, parce que je ne peux pas parler au nom de toute l'Afrique, mais en Afrique de l'Ouest, ils inscrivent cette initiative dans le cadre de l'offensive riz, avec une inclusion de tous les acteurs, de toutes les parties prenantes dans le dialogue, qu'on sache, qu'on aille dans les détails ensemble et qu'on puisse savoir quel est qui donner un vrai contenu, peut-être que ça peut donner un résultat. Parce qu'en fait, le Japon est l'un des pays qui taxe le plus les importations de riz. Je pense que ça doit être autour de 250%. Ça doit inspirer les Africains. Et c'est pour que les gens ne puissent pas déstabiliser la production locale de riz au Japon. Donc pourquoi, nous, en Afrique de l'Ouest, par exemple, le tarif extérieur commun sur le riz est de 10%. Imaginez, le Japon 250%, nous 10%. C'est vraiment de la subvention, c'est de la subvention à l'importation du riz. L'Afrique de l'Ouest subventionne l'importation du riz. Et ça, c'est extrêmement grave.
Voilà. Et donc, les acteurs du JICA, donc, qui est l'agence japonaise de commerce international, sont certainement à l'écoute. Nous avons cherché à en inviter sur cette émission, mais malheureusement, on ne nous a trouvé aucun interlocuteur pour discuter avec nous de ce sujet de grande importance à partir de cette annonce faite par le Japon. Mais Bernard Jonga, à vous entendre tous parler, on voit qu'il y a un manque, il y a un problème de ressources qui se pose, et le Japon pourrait bien être le contributeur pour l'argent qu'il faut et améliorer le circuit, vous ne pensez pas?
Bon, écoutez, au stade actuel, je ne peux pas me prononcer. Je dis bien, je ne peux pas me prononcer. Parce que quand vous suivez l'intervention de Berthelot de tout à l'heure, de Jacques, lui, il dit très bien que les Japonais aussi importent du riz. Ça veut dire que je suis un peu curieux et puis un peu regardant. Parce qu'on est dans une période où on parle de l'accaparement des terres. Alors, si l'aide, c'est venir nous aider à produire le riz localement, je serais le premier à douter que les Japonais soient honnêtes dans leur approche. Donc, il est important de savoir comment cette aide sera gérée et comment ça pourra être destiné pour se prononcer. C'est très important parce que ce n'est pas la première fois qu'on parle de l'aide. On a connu des cas d'aide qui ont abouti à des fiascos.
Jacques Berthelot, est-ce que vous comprenez la réaction de Bernard Jonga tout à l'heure? On peut comprendre que le Japon lui-même n'arrive pas à produire localement ce qu'il faut pour ses consommateurs. Et la question, c'est est-ce que cette augmentation attendue de la production de riz en Afrique ira combler le déficit au Japon?
Il n'y a pas de déficit de riz au Japon. Ce que je n'ai pas été assez clair tout à l'heure, c'est ce qu'il faut comprendre, c'est que le Japon, il a en fait des droits de douane de 700% sur les importations de riz. 700%. Mais cela, il a pu le faire à condition ça a été négocié à l'OMC avec les États-Unis à condition qu'ils s'engagent à importer au minimum 700 000 tonnes sans droit de douane, essentiellement des États-Unis.
Ah, c'est pour obliger le Japon à respecter les règles de
oui,
l'OMC,
c'est-à-dire c'est pour que les règles commerciales. C'est un arrangement pour que le Japon... Les Japonais ne veulent consommer que leur riz. C'est la base d'une politique de maintien de population dans les zones rurales. Et donc, le Japon est obligé d'importer le riz. Mais moyennant quoi, c'est 700 000 tonnes. Donc, ils n'en ont pas besoin parce que leur riz, qu'ils préfèrent du point de vue gustatif, etc., ils le consomment. Ils n'ont pas de déficit en riz. Mais ils ont au contraire un surplus puisque c'est 700 000 tonnes qu'ils importent obligatoirement des États-Unis. Ils sont obligés de le... Comme ils ne veulent pas le consommer, ils le réexportent essentiellement sous forme d'aide alimentaire, ou une partie aussi d'ailleurs sous forme d'aliments du bétail.
Merci à tous les trois. Nous allons revenir sur le sujet lorsque peut-être le Japon en fera entrer son annonce dans du concret. Merci à tous nos auditeurs d'être restés au bout du fil. Encore des appréhensions, encore des zones d'ombre après cette annonce d'augmenter la production de riz en Afrique à 50 millions par an d'ici 11 ans. Ibrahim Koulibaly, président du ROPA, discutait de ce sujet avec nous. Bernard Ndjonga, président de l'association Camerounaise pour la défense des intérêts collectifs, et Jacques Berthelot, enseignant-chercheur en économie agricole à la retraite et spécialiste de l'économie rurale. Merci à tous et à la semaine prochaine pour un autre débat sous l'arbre à palabres.